Chapitre 4 Topeka 1 Jake se tenait sur le toit légèrement incliné de Blaine Lemoineau et regardait en direction du sud-est en suivant le sentier du rayon. Le vent chamaillait ses cheveux, assez longs et d'une coupe radicalement non pipérienne à présent, sur ses tempes et son front par vagues. Il ouvrait des yeux ronds de surprise. Il ne savait trop à quoi il s'était attendu, à une version réduite de Lude, en plus provinciale peut-être, mais certes pas à voir ce qui dominait les arbres d'un parc voisin. Un panneau autoroutier d'un vert criard surmonté d'un écusson bleu se détachant contre le ciel d'automne d'un gris uniforme. On pouvait y lire 70. Roland le rejoignit, retira doucement ôté de sa chemise et le déposa sur le toit de Blaine. Le bafouilleux renifla la surface rose, puis regarda vers l'avant du mono. Là-bas, la tête lisse du train en balle de revolver n'était plus qu'un froissement de métal qu'on aurait pelé en deux ailes déchiquetées. Une double estafilade sombre commençant à la pointe du mono et venant s'interrompre à une dizaine de mètres de l'endroit où se tenaient Jake et Roland blessait le toit de ses parallèles. À l'extrémité de chacune, on voyait un large pylône métallique rayé jaune et noir. Il paraissait jaillir du toit du monorail juste avant le compartiment de la baronnie. Pour Jake, il ressemblait un peu au poteau de but d'un terrain de foot. « Ce sont les butoirs du quai qu'il parlait de se prendre de plein fouet, » murmura Suzanne. Roland approuva du chef. « On a eu de la veine de s'en tirer, mon grand. Tu sais ça ?» Si ce bidule avait roulé plus vite. Le cas, prononça Eddie dans leur dos. Roland acquiesça. Oui, le cas. Jake se désintéressa des poteaux de but en transacier et se tourna à nouveau vers le panneau, persuadé à demi qu'il ne serait plus là ou bien qu'il dirait autre chose. Autoroute à péage de l'entre-deux-mondes ou bien encore attention aux démons. Mais il n'avait pas bougé d'un pouce et indiquait toujours la même chose. Eddie ? Susanna ? Vous avez vu ça ? Ils suivirent des yeux son doigt pointé. Pendant un instant, assez long toutefois pour que Jake craigne d'avoir été victime d'une hallucination, aucun d'eux ne pipa mot. Puis Eddie fit à voix basse.
Putain de merde !
On est rentré chez nous ? Et si c'est bien le cas, où sont passés les gens ? Et si un machin comme Blaine faisait un arrêt à Topeka ? Notre Topeka, Topeka, Kansas. Comment se fait-il que je n'ai jamais rien vu là-dessus dans 60 minutes ?
C'est quoi, 60 minutes ? Demanda Susanna.
La main en visière, elle regardait vers le panneau, au sud-est. Une émission de télé animée par de vieux schnocks blancs en costard-cravate, dit Eddie. Tu l'as raté à 5 ou 10 ans près. Pas grave. Mais ce panneau...
Ok, on est au Kansas, fit Susanna. Et dans notre Kansas, je pense.
Elle avait repéré un autre panneau dépassant à peine des arbres. Elle le désigna à Jake, à Eddie et à Roland. On y lisait... Kansas Turnpike, KTA.
Il y a un Kansas dans ton monde, Roland ?
Non, répondit Roland, l'œil fixé sur les panneaux. Nous sommes loin des confins du monde qui était le mien. J'en étais déjà fort éloigné avant même de vous rencontrer tous les trois. Cet endroit... Il s'interrompit, penchant la tête comme à l'écoute d'un bruit à la limite de l'audible. Et l'expression de son visage... Jake ne l'aimait pas beaucoup.
Oyez, oyez les mômes, fit Eddie avec enjouement.
Aujourd'hui, cours de géo, Zarbi de l'entre-deux-mondes. Faut savoir, les gars et les nanas, que dans l'entre-deux-mondes, on part de New York, on se dirige au sud-est vers le Kansas, avant de suivre le sentier du rayon jusqu'à ce qu'on atteigne la tour sombre, qui se trouve pile-poil au milieu de tout et n'importe quoi. Primo, faut combattre les homards géants. Deuxio, prendre le train psychotique. Et après une virée à notre snack bar préféré pour un popkin ou deux, aucun de vous n'entend rien. Le coupa Roland. Jake dressa l'oreille. Il entendit le vent échevelant les arbres du parc voisin, dont les feuilles commençaient à changer de couleur, et aussi le cliquetis des ongles des pattes dotées qui revenaient vers eux sans se presser le long du toit du compartiment de la baronnie. Puis Otté s'arrêta, et avec lui le bruit qu'il faisait. Une main saisit Jack par le bras, le faisant sursauter. C'était Susanna, la tête penchée, elle écarquillait les yeux. Eddie aussi écoutait. Otté, idem. Les oreilles dressées et un gémissement étouffé au fond de la gorge. Jake eut une poussée de chair de poule tout en faisant la grimace. Le son, bien que très faible, agaçait les oreilles comme un zeste de citron agace les dents. Jake avait déjà entendu quelque chose de ressemblant. Ça remontait à ses 5-6 ans. Il y avait une espèce de dingue à Central Park qui se prenait pour un musicien. Ouais, bien sûr, à Central Park, des tonnes de dingues se prenaient pour des musiciens. Mais c'était le seul que Jake ait jamais vu jouer avec un outil de menuisier. Sur un écriteau posé près de son chapeau renversé, on pouvait lire « Le plus grand joueur de scie du monde. Hein, qu'on dirait de la musique hawaïenne. Aidez-moi d'une petite pièce, SVP. » Jake était en compagnie de Greta Shaw, la première fois qu'il avait rencontré le joueur de scie musicale. Il se souvenait comme elle avait pressé le pas en arrivant à sa hauteur. Il était assis là comme le violoncelliste d'un orchestre symphonique, sauf qu'il avait une scie à main, maculée de rouille, étalée sur ses genoux. Jake se souvint de l'expression horrifiée et comique de Mrs. Shaw et la moue de ses lèvres pincées, comme si... comme si elle venait de mordre à belles dents dans un quartier de citron. Si le son qu'il entendait aujourd'hui n'était pas exactement semblable à celui, qu'on dirait de la musique hawaïenne, que le type du parc produisait en faisant vibrer la lame de sa scie, il s'en rapprochait beaucoup. Un son métallique, pleurard, tremblotant qui vous montait au sinus et vous donnait l'impression que vos yeux allaient cracher de l'eau. D'où cela provenait-il ? Jake n'aurait su le dire. Le son semblait surgir de partout et de nulle part. En même temps, il était si bas qu'il aurait facilement cru que tout ça n'était qu'un effet de son imagination, si les autres ne l'avaient pas. « Attention !» cria Eddie. « Aidez-moi, les mecs ! Je crois qu'il va s'évanouir !» Jake pivota vers le pistolero et vit que sa figure était devenue aussi pâle que du fromage blanc, au-dessus de sa chemise décolorée par la poussière. Ses yeux ronds n'offraient qu'un regard vide. Un coin de sa bouche se crispait spasmodiquement comme si un hameçon invisible y était fiché. « Jonas Reynolds est de pape, dit-il, les grands chasseurs du cercueil. Et elle, celle du chaos, c'était eux qui... » Debout sur le toit du mono, dans ses bottes fatiguées et poussiéreuses, Roland chancelait. Son visage exprimait le plus grand chagrin que Jake ait jamais vu. « Oh, Susan, dit-il. Oh, mon amour. » 2. Ils le saisirent et formèrent un cercle protecteur autour de lui. Le pistolero bouillonnait de honte, de culpabilité et de dégoût pour lui-même. Qu'avait-il fait pour mériter d'aussi dévoués protecteurs ? Quoi d'autre à part le fait de les avoir arrachés au train-train de leur vie quotidienne, et cela avec aussi peu d'égard qu'on arrache les mauvaises herbes de son jardin ? Il voulut les rassurer sur son état, leur dire de le lâcher, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Ce terrible son pleurard l'avait transporté des années en arrière, dans le Box Canyon, à l'ouest d'Ambry. Avait rappelé à son souvenir De Pape et Reynolds et ce vieux bancroche de Jonas. Mais c'était pourtant la femme de la colline qu'il haïssait le plus, d'une haine que seul un très jeune homme peut aller puiser aux plus sombres sources de son être. Aurait-il pu faire autrement que de les haïr ? Il lui avait brisé le cœur. Et aujourd'hui, tant d'années plus tard, il lui semblait que la chose la plus horrible de toute l'existence humaine, c'était que même les cœurs brisés se ressoudent. Je pensais d'abord, il ment à chaque mot, cet estropié chenu à l'œil plein de malice.
Quels étaient ces vers? Tirés de quel poème? Il l'ignorait, mais il savait en revanche que les femmes aussi pouvaient mentir. Ces femmes aux larges sourires qui sautillaient dans tous les coins et voyaient trop de choses du coin de leur vieil œil chassieux. Peu importait l'auteur de ces vers. Ces mots disaient vrai, rien d'autre ne comptait. Ni Eldred Jonas, ni la mégère de la colline n'avaient eu l'envergure de Martin, ni même celle de Walter, dans la malfaisance. Mais tel quel, il ne lui en avait pas moins grandement nui. Puis, après, dans le canyon, à l'ouest de la ville, ce son auquel vinrent se mêler les cris des hommes et des chevaux blessés, pour une fois dans sa vie, même Cuthbert, si volubile d'habitude, avait été réduit au silence. Mais tout ça remontait à il y a fort longtemps, à un autre camp. Dans l'ici et maintenant, ce gazouillis avait soit disparu, soit été tombé en dessous du seuil d'audibilité. Mais il le réentendrait. Il le savait comme il savait à coup sûr qu'il était en marche vers la damnation. Relevant les yeux vers les autres, il grimaça un pauvre sourire. Les commissures de ses lèvres ne tremblaient plus, c'était déjà ça. « Ça va, » dit-il. « Mais écoutez-moi bien. Nous voilà tout près de la fin de l'entre-deux-mondes et tout près du commencement du monde ultime. La première grande étape de notre quête est terminée. Nous nous en sommes bien tirés. Nous nous sommes rappelés le visage de nos pères. Nous sommes restés unis et loyaux les uns envers les autres. Mais pour l'heure, nous venons d'atteindre une tramée. Nous devons faire très attention.
Une tramée? C'est quoi ça? Demanda Jake, regardant autour de lui avec nervosité.
Un endroit où l'étoffe de l'existence est usée jusqu'à la trame. Il se multiplie, puisque la force de la tour sombre est déclinante. Vous n'avez pas oublié ce que nous avons vu au-dessus de nous en quittant Lude?
Ils acquiescèrent avec solennité, se rappelant le sol comme du verre noir fondu, les anciennes canalisations lançant des lueurs d'un bleu-vert maléfique, les monstrueux oiseaux difformes aux ailes semblables à de grandes voiles de cuir. Soudain, Roland ne put supporter davantage de les voir regroupés autour de lui, à le regarder de haut comme les clients d'un bar, toise un voyou tombé dans une rixe. Il tendit ses mains à ses amis. Ses nouveaux amis. Eddie les lui prit et l'aida à se remettre sur pied. Le pistolero concentra son énorme volonté pour ne pas vaciller et garder l'équilibre.
C'était qui? Suzanne? Demanda Suzanne.
Le pli qui barrait son front dénotait chez elle un trouble allant probablement plus loin que la simple coïncidence de la similarité des prénoms. Roland la regarda. Puis Eddie, puis Jake, qui s'était agenouillé pour pouvoir gratter ôter derrière les oreilles.
« Je vous raconterai, » dit-il, « mais ce n'est ni le lieu ni l'heure. »«
Tu n'arrêtes pas de dire ça, » protesta Susanna. « Tu ne vas pas encore nous renvoyer au calendrier grec, hein ?»
Roland fit non de la tête.
« Vous saurez mon histoire, cette partie du moins, mais pas plantée sur cette carcasse métallique. »
Ouais, dit Jake. Être là-dessus, c'est comme s'amuser sur l'échine d'un dinosaure crevé ou un truc du même genre. J'arrête pas de penser que Blaine va revenir à la vie et recommencer à nous prendre la tête.
Le bruit est parti, constata Eddie. Ce truc qui ressemblait à une pédale wah-wah.
Ça m'a fait penser au vieux que je voyais dans Central Park, dit Jake.
L'homme à la scie musicale? Demanda Suzanne.
Jake leva vers elle des yeux ronds. Et elle opina. Sauf qu'il n'était pas du tout vieux quand je le voyais, moi. Il n'y a pas que la géographie de Zarbi par ici. La chronologie, il est aussi.
Eddie lui entoura les épaules de son bras et les serra.
Amen. Susanna se tourna vers Roland. Même si son regard n'était pas accusateur, ses yeux avaient une façon tranquille de le jauger sans détour que le pistolero ne put s'empêcher d'admirer.
« Je ne te tiens pas quitte de ta promesse, Roland. Je veux tout savoir sur cette fille qui s'appelle comme moi. »
Tu le sauras, répéta Roland.
Pour l'instant, descendons du dos de ce monstre.
3. Plus facile à dire qu'à faire.
Blaine s'était immobilisé légèrement en travers d'une variante en plein air du berceau de Lude. Une traînée de débris tordus de métal rose la jonchait d'un côté, marquant la fin du dernier voyage de Blaine. Et plus de 7 mètres séparaient facilement le toit du compartiment de la baronnie du béton de la plateforme. Si une échelle de coupé existait, identique à celle qui avait si commodément surgi par la trappe de sécurité, elle avait dû se retrouver coincée dans le froissement de tôle de l'arrêt. Roland décrocha sa bourse, y fouilla et en sortit le harnais en peau de daim qu'ils utilisaient pour transporter Susanna quand le chemin était trop raboteux pour son fauteuil roulant. Fauteuil du moins qui ne leur causerait plus de tracas, songea le pistolero. Ils l'avaient abandonné derrière eux dans leur folle bousculade pour monter à bord de Blaine.
« À quoi ça va te servir ?» demanda Susanna avec agressivité. Son agressivité ressurgissait toujours avec la réapparition du harnais. Ces culés de cul blanc là-bas, dans le Mississippi, je déteste, puis que je déteste ce harnais, avait-elle confié un jour à Eddie avec la voix de Detawaka. Mais parfois c'est presque du pareil au même. Mon chou.
Tout doux, Susanna, tout doux, dit le pistolero avec un léger sourire.
Il défit le réseau de lanières du harnais, mettant le siège de côté, avant de les tresser à nouveau. Il réunit le résultat au dernier bon rouleau de corde en sa possession par un simple nœud d'écoute à l'ancienne. Tandis qu'il s'y employait, il tendait l'oreille à l'affût du gazouillis de la tramée. Comme tous les quatre avaient tendu l'oreille pour percevoir le tambour des dieux. Comme Eddie et lui avaient guetté le moment où les homarstruosités commençaient leur questionnement de roi de la chicane.
« Ah, ce que châle, et ce que chic, eux ce que chule !» En trébuchant chaque soir hors des vagues. « Le cas est une roue, songea-t-il. » Ou bien, comme Eddie aimait à le dire, « Tout ce qui s'en va s'en revient. »
Une fois la corde terminée, il fut une boucle au bas de la partie tressée. Jake y glissa un de ses pieds avec une confiance aveugle, agrippa la corde d'une main et installa Otté au creux de l'autre bras. Otté regarda nerveusement autour de lui, gémit et, étirant le cou, lécha la figure de Jake.
« T'as pas peur, n'est-ce pas ?» demanda Jake au bafouilleux.
« Heure !» acquiesça Otté.
Mais il se tint assez tranquille quand Roland et Eddie descendirent Jake le long du flanc du compartiment de la baronnie. La corde n'était pas suffisamment longue pour le mener jusqu'en bas, mais Jake n'eut aucun mal à libérer son pied et se laissa tomber sur le dernier mètre. Il déposa Otté sur le sol. Le bafouilleux trottina, la truffe au vent, pour aller lever la patte contre le bâtiment du terminus. Loin d'être aussi imposant que le berceau du Lude, il avait un aspect vieillot que Roland apprécia. Charpente blanche, avant-toit en surplomb, hautes et étroites fenêtres, et ce qui ressemblait à des bardeaux d'ardoise. Le terminus avait un look occidental. En lettres dorées, sur un panneau qui s'étirait en enfilade au-dessus des portes du terminus, on lisait ce qui suit. Atchison, Topeka et Santa Fe.
Des noms de villes, supposa Roland.
Et la dernière lui parut familière. N'y avait-il pas eu une Santa Fe dans la baronnie de Mégis? Mais cela le ramenait à Susanna, à la jolie Susanna à sa fenêtre, à ses cheveux dénoués lui tombant au creux des reins, à son odeur de jasmin, de rose, de chèvrefeuille et de foin coupé, senteur dont l'oracle des montagnes n'avait été capable de fournir que la plus pâle des imitations. Susanna, couchée sur le dos, les yeux graves levés vers lui, puis souriante, qui avait glissé ses mains derrière la nuque pour mieux faire pointer ses seins, comme s'il brûlait d'avoir ses mains à lui sur son corps.
« Si tu m'aimes, Roland, alors aime-moi jusqu'au bout, oiseau et ours, lièvre et poisson,
Suivante.
Il se retourna vers Eddie, devant accomplir un énorme effort de volonté sur lui-même pour s'arracher au camp de Suzanne Delgado. Il y avait des tramés ici, à Topeka. Fort bien. Et de multiples sortes. J'avais l'esprit ailleurs, Eddie. J'implore ton pardon.
Susanna est la suivante, c'est ce que je viens de te demander.
Roland refusa d'un signe de tête.
Toi, ensuite, puis Susanna, et moi, enfin, en dernier.
Ça ira, avec ta main et tout ça?
Mais oui, ça ira.
Eddie opina et glissa son pied dans la boucle. À l'arrivée d'Eddie dans l'entre-deux mondes, Roland aurait pu le descendre facilement tout seul, doigt manquant ou pas. Mais Eddie n'avait plus touché à sa drogue depuis des mois à présent, et il s'était remplumé de 7-8 bons kilos de muscles. Roland accepta l'aide de Susanna plutôt de bon cœur, et ensemble, ils aidèrent Eddie à descendre.
« À votre tour, gentille dame, » dit Roland en lui souriant.
Il n'avait plus tellement besoin de se forcer à sourire ces derniers temps.
« Ok, mais nonobstant, elle restait là, à se mordiller le bas de la lèvre.
Qu'est-ce qu'il y a ?»
Portant sa main à son ventre, elle le massa comme s'il lui faisait mal ou qu'elle avait la colique. Il crut qu'elle allait dire quelque chose, mais elle se contenta de secouer la tête.
« Rien.
Je ne te crois pas. Pourquoi tu te frottes le ventre? Tu es blessé? Tu t'es blessé quand on s'est arrêté ?»
Elle retira la main de sa tunique comme si la peau en dessous du nombril était soudain devenue brûlante.
« Non, ça va. »«
C'est vrai ?»
Susanna parut réfléchir très attentivement.
« On en reparlera, » dit-elle finalement.
« On tiendra une palabre, si tu préfères. »« Mais tu avais raison tout à l'heure, Roland. Ce n'est ni le lieu ni le moment. »
Nous quatre, ou juste toi, moi et Eddie?
Rien que toi et moi, Roland, dit-elle, en fourrant son moignon de jambe dans la bouche du nœud coulant. Juste un tête-à-tête entre un coq de basse-cour et une de ses poules, du moins pour commencer. Maintenant, descends-moi, s'il te plaît. Ce qu'il fit, le sourcil froncé, espérant de tout son cœur que sa première idée, celle qui lui était venue dès qu'il l'avait vue se masser sans relâche, était erronée. Parce qu'elle avait été dans l'anneau de parole et que le démon dont c'était la tanière avait fait d'elle ce qu'il avait voulu pendant que Jake tentait de passer d'un monde à l'autre. Parfois, souvent, un contact démoniaque changeait les choses. Jamais pour le mieux, d'après l'expérience de Roland. Il remonta la corde une fois qu'Eddie, attrapant Susanna par la taille, lui eut fait rejoindre le quai. Le pistolero s'avança vers l'un des butoirs qui avait déchiré le museau en balle de revolver du monorail, tout en confectionnant un demi-nœud avec l'extrémité de la corde. Il le lança par-dessus le pylône, l'arrêta par un tour mort, en prenant soin de ne pas tirer trop vivement sur la corde à gauche, puis gagna de la sorte le quai par ses propres moyens, prenant appui sur le flanc rose de Blaine où ses bottes laissèrent des traces de leur passage.
« Dommage qu'on perde à la fois la corde et le harnais, » observa Eddie quand Roland les eut rejoints.
« Je ne regrette pas ce harnais, » dit Susanna. « Je préfère ramper sur le trottoir, quitte à avoir les avant-bras recouverts de chewing-gum jusqu'au coude. »
« On n'a rien perdu du tout, » fit Roland. Glissant la main dans la boucle étriée de cuir, il tira d'un coup sec sur la gauche. La corde dégringola du butoir. Roland la rassemblant au fur et à mesure sans se faire prendre de vitesse.
« Super géant !» dit Jake. « Père An !»
acquiesça Otte.
« Corte ?» demanda Eddie.
« Corte !» confirma Roland avec un sourire. « L'instructeur d'enfer !» dit Eddie.
« Au mieux toi que moi, Roland. » Au mieux toi que moi.
4. Comme il se dirigeait vers les portes de la gare, ce son liquide, sourd et mélodieux reprit de plus belle. Roland s'amusa de voir ses trois compagnons froncer le nez et faire la moue avec un bel ensemble. Ça leur donnait un air de famille, autant que d'un quatet. Susanna désigna le parc de la main. Les panneaux au-dessus des arbres tremblotaient légèrement comme sous l'effet d'une brume de chaleur.
« Ça vient de la tramée ?» demanda Jake.
Roland opina.
« On pourra l'éviter ?»«
Oui. Les tramées sont dangereuses comme les sables mouvants des marécages et les saligues. Vous savez de quoi je parle ?»«
Les sables mouvants, on connaît, » dit Jake.
« Et si les saligues sont ces longues choses vertes à longues dents vertes, on connaît aussi. »«
Oui, c'est bien ça. »
Susanna se retourna pour regarder Blaine une dernière fois.
« Ni question bête, ni jeu bête. » Le livre avait raison sur ce point.
Puis elle porta son regard sur Roland. « Et Barry Levens, celle qui a écrit Charlie le Chouchou ?
Tu crois qu'elle fait partie de tout ça ?
Qu'on pourrait la rencontrer ?
J'aimerais bien la remercier. Eddie, bien sûr, a solutionné le problème, mais c'est possible, je suppose, dit Roland.
Mais, à vrai dire, je ne crois pas. Mon monde est comme un gigantesque bateau échoué assez près du rivage pour que la plupart de ses épaves soient rejetées par la mer sur la plage. Bien des choses que nous trouvons sont fascinantes. Quelques-unes peuvent nous être utiles, si le cas le permet, mais ça n'en sont pas moins des épaves dénuées de sens.
Il jeta un regard alentour. À l'image de cet endroit, je pense.
Il n'a pas vraiment l'air d'un truc échoué, dit Eddie. Regardez la peinture de la gare, il y a un peu de rouille provenant des gouttières sous l'avant-toit, mais sinon, elle n'est écaillée nulle part ailleurs, à ce que j'en vois.
Se plantant devant les portes, il fit glisser ses doigts de haut en bas sur la vitre de l'imposte, y traçant quatre traînées claires.
De la poussière en pagaille, mais pas de fêlure. D'après moi, ce bâtiment n'a pas été nettoyé depuis
le début de l'été, peut-être.
Il regarda Roland qui acquiesça en haussant les épaules. Il n'écoutait que d'une oreille, car son attention était divisée. Le reste de son esprit se concentrait sur deux choses. Le gazouillis de la tramée et ses efforts pour repousser les souvenirs qui menaçaient de le submerger.
Mais Lude tombait en ruine depuis des siècles, dit Susanna. Tandis que cet endroit, que ce soit ou non Topeka, me fait vraiment penser à ces petites villes à filer la chair de poule dans la quatrième dimension. Vous ne devez pas vous souvenir de cette série, les mecs, mais...
si,
répondirent Eddie et Jake comme un seul homme. Ils échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Eddie tendit la main et Jake tapa dedans.
Ils font des rediffs ? Expliqua Jake.
Ouais, tout le temps,
ajouta Eddie. Les sponsors d'habitude, ce sont des avocats spécialisés dans les faillites qu'ont l'air de terrier à poil ras. Et t'as raison, Susanna, cet endroit n'a rien à voir avec Lude. Pourquoi il lui ressemblerait d'ailleurs ? Il n'est pas situé dans le même monde.
Je sais pas où on est passé de l'autre côté, mais il désigna à nouveau l'écusson bleu de l'Interstate 70 comme si cela prouvait ce qu'il avançait, sans l'ombre d'un doute.
« Si c'est Topeka, où sont les habitants ?» demanda Susanna.
Eddie haussa les épaules avec un geste fataliste.
« Qui sait ?»
Jake appuya son front contre la vitre de la porte centrale et scruta l'intérieur, les mains en pare-soleil. Peu après, il aperçut quelque chose qui le fit se reculer bien vite.
« Oh, oh, pas étonnant que la ville soit si calme !»
Roland se mit derrière Jake et regarda à son tour par-dessus la tête du garçon, éliminant lui aussi son propre reflet de ses mains. Le pistolero, avant même de voir ce que Jake avait vu, avait tiré deux conclusions. Primo, il avait beau s'agir sans contredit d'une gare ferroviaire, ce n'était pas vraiment là une gare pour Blaine. Elle n'avait rien d'un berceau. Deuxio, la gare appartenait bien au monde d'Eddie, de Jake et de Susanna, mais... peut-être pas à l'heure où.
C'est la tramée. Il va nous falloir prendre garde.
Deux cadavres étaient renversés côte à côte sur l'un des longs bancs qui occupaient pratiquement tout le hall. Leurs visages parcheminés à l'abandon et leurs mains noires mises à part. On aurait pu les prendre pour des fêtards qui s'étaient endormis dans la gare après une noce à tout casser et avaient raté leur dernier train. Sur le mur derrière eux, on lisait sur un tableau où était marqué « Départ » le nom de ville, de village et de baronnie, les uns en dessous des autres. « Denver », lisait-on ici. « Wichita », lisait-on là. « Omaha », lisait-on encore ailleurs. Roland avait connu autrefois un joueur borgne du nom d'Omaha. Il était mort, un couteau planté dans la gorge, à une table de surveille-moi. Il avait pénétré dans la clairière à la fin du sentier, la tête rejetée en arrière et arrosant dans son dernier souffle le plafond de son sang. Suspendu à celui de cette salle, que l'esprit lent et lourd de Roland s'obstinait à considérer comme un relais de diligence le long d'une route à demi oubliée, telle celle qu'il avait menée jusqu'à Tull, une superbe horloge à quatre cadrans exhibait ses aiguilles bloquées sur 4h14. Roland supposa qu'elle ne se remettrait plus jamais en mouvement. Triste pensée. Mais triste était ce monde. S'il n'aperçut pas d'autres cadavres, l'expérience lui soufflait que là où il y en avait deux, il y en avait quatre, et aussi bien 13 à la douzaine, hors de vue. « On entre ?» demanda Eddie. « Pourquoi faire ?» riposta le pistolero. « Ça ne se trouve pas sur le sentier du rayon. »
« Tu ferais un guide touristique du tonnerre, » dit Eddie, revêche. « En avant tout le monde, et prière de ne pas aller vadrouiller dans le... »
Jake l'interrompit par une demande que Roland ne comprit pas.
« Vous n'auriez pas un quarter, vous autres, par hasard ?»
Le garçon s'adressait à Eddie et à Susanna. Près de lui se trouvait une cassette métallique sur laquelle on lisait écrit en bleu « Le Capital Journal de Topeka vous parle du Kansas comme nul autre. » C'est le quotidien de votre ville. Lisez-le chaque jour que Dieu fait. » Eddie, amusé, fit non de la tête. J'ai perdu ma monnaie à un moment ou à un autre. Probablement quand j'ai grimpé dans cet arbre un peu avant que tu nous rejoignes, lors de ma tentative désespérée pour éviter de servir de casse-croûte à un ours robot. Je regrette. Attends une minute. Attends une minute. Susanna fourrageait dans son sac ouvert d'une façon qui fit sourire Roland en dépit de ses préoccupations. C'était un geste tellement féminin dans son genre. Elle retourna des kleenex froissés, les secouant pour s'assurer qu'ils ne contenaient rien, sortit un poudrier, l'examina, le lâcha à nouveau dans le sac, pêcha un peigne, le remit en place. Trop absorbée, elle ne releva pas les yeux quand Roland, en deux trois mouvements, passa devant elle et défourailla son revolver du holster en crampon de débardeur qu'il lui avait fabriqué. Il ne tira qu'un coup, un seul. Susanna, poussant un petit cri, laissa tomber son sac et porta la main à l'étui vide sous son sein gauche. « Visage pâle, tu m'as foutu une frousse du diable !»« Fais davantage attention à ton arme, Susanna. Sinon, la prochaine fois que quelqu'un te l'arrachera, tu te retrouveras avec une balle entre les deux yeux au lieu qu'elle soit fichée dans... Comment t'appelles ça, Jake, une boîte conçue pour donner des nouvelles ou bien destinée à contenir du papier ?»«
Les deux ?» fit Jake d'un air effrayé.
Otte avait battu en retraite à la moitié du quai et regardait Roland plein de méfiance. Jake enfonça son doigt dans le trou que la balle avait creusé au centre de la serrure de la cassette à journaux. Un peu de fumée s'en échappait. « Vas-y, » dit Roland. « Ouvre. » Jake tira sur la poignée qui résista un peu, puis une pièce métallique tomba avec un cliquetis quelque part à l'intérieur et l'abattant s'ouvrit. La cassette était vide. L'écriteau collé sur la paroi du fond disait « S'il n'y a plus aucun numéro, prière de prendre l'exemplaire du présentoir. » Jake l'extirpa de son support de fil de fer et les autres firent cercle autour de lui.
« Bon Dieu, qu'est-ce que... » fit Susanna d'un murmure à la fois horrifié et accusateur. « Qu'est-ce que ça signifie ? Bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»
Sous l'entête de journal, barrant quasiment tout le haut de la première page, se détachait en lettres noires qui hurlaient
La super grippe dite Capitaine Trips fait rage sans aucun frein. Les chefs du gouvernement ont pu fuir le pays. Les hôpitaux de Topeka regorgent de malades et de mourants. Ils sont des millions à prier pour leur guérison.
Lisez à haute voix, dit Rowland. Les lettres sont dans votre parler. Je ne peux pas les déchiffrer toutes et j'ai très envie de savoir ce que ça raconte.
Jake lança un regard à Eddie qui opina avec impatience.
Jake déplia le journal, révélant une image en pointillé.
Rowland avait déjà vu des images de ce type. On les appelait des photographies. Qui leur causa un choc à tous. On voyait une ville au bord d'un lac au gratte-ciel en flammes.
Les incendies ravagent Cleveland, disait la légende en dessous.
Lis, petit, fit Eddie.
Susanna se taisait. Elle lisait déjà l'article, le seul à figurer en première page, par-dessus l'épaule de Jake. Ce dernier s'éclaircit la gorge comme s'il n'avait soudain plus de salive et commença sa lecture.
5.
C'est signé John Corcoran, plus rédaction et dépêche, Associated Press. Ça signifie que plein de gens différents ont travaillé dessus, Rowland.
Ok. J'y vais.
La plus grande crise qu'ait jamais connue l'Amérique et peut-être le monde s'est aggravée du jour au lendemain. La super grippe qu'on nomme Tube Neck dans le Middle West et Capitaine Trips en Californie ne cesse d'étendre ses ravages. Bien que le nombre des victimes ne puisse être évalué avec exactitude, des médecins experts déclarent que leurs chiffres dépassent déjà au stade actuel les plus horribles prévisions, de 20 à 30 millions de morts sur le seul continent américain est l'estimation qu'a donnée le docteur Maurice Ackford de l'hôpital et centre médical Saint-François de Topeka. On ne cesse de brûler des cadavres de Los Angeles à Boston, dans les crématoriums, les hauts fourneaux et les décharges publiques. Ici, à Topeka, on encourage les survivants, encore assez bien portants et assez résistants pour le faire, à transporter leurs morts jusqu'à l'un des trois sites suivants. L'usine dépotoir au nord d'Oakland Beeler Park, le champ de course de Hearthland Park, le dépôt d'ordures de la 61e rue sud-est à l'est de Forbes Field. Ceux qui opteront pour le dépôt devront emprunter Brereton Road, en Californie, d'après des sources autorisées, la circulation a été bloquée par les épaves de voitures et au moins par un avion cargo de l'Air Force abattu.
Jake releva des yeux terrifiés vers ses amis et regarda derrière lui la gare silencieuse avant de les rabaisser vers le journal.
Le docteur April Montoya du centre médical régional de Stormont Vale fait remarquer que le nombre de victimes, si horrifiant soit-il, ne constitue que l'un des aspects de cet affreux épisode. Car pour chaque personne décédée jusqu'ici de ce nouveau virus grippal, a déclaré le docteur Montoya, on en compte 6 autres alités chez elle, peut-être même peut-on aller jusqu'à la dizaine. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons pu déterminer, le taux de guérison est de 0%. Elle a confié en toussant au même journaliste, sur un plan strictement personnel, je ne fais aucun projet pour le week-end. Autre développement au plan local. Tous les vols commerciaux au départ de Forbes et de Philip Billard sont annulés. Tous les trajets ferroviaires par l'Amtrak sont suspendus, non seulement à Topeka même, mais à travers tout le Kansas. La gare Amtrak de Gage Boulevard est fermée jusqu'à nouvel ordre. Tous les établissements scolaires de Topeka sont également fermés jusqu'à nouvel ordre. Ceci concerne les secteurs 437, 345, 450, Shawnee Heights, 372 et 501, Topeka Centre. Le collège luthérien et le collège technique de Topeka ont eux aussi fermé leurs portes, de même que la Kansas University à Lawrence. Les habitants de Topeka doivent s'attendre à des baisses de tension ou des pannes de secteur dans les jours et les semaines qui viennent. la compagnie d'électricité du Kansas, Power and Light, a annoncé une mise au ralenti de la centrale nucléaire de la CO à Wembego. Bien que nul membre des RP de la CONUKE n'ait répondu aux appels de notre journal, un message enregistré prévient qu'il ne s'agit en aucun cas d'une alerte, mais d'une simple mesure de sécurité. Que le fonctionnement de la CONUKE retournera à la normale à l'issue de la crise actuelle. Le réconfort qu'on pourrait puiser dans ce communiqué est en grande partie réduit à néant par les derniers mots de l'enregistrement qui ne sont ni « au revoir » ni « merci de votre appel », mais « Dieu nous aide dans cette épreuve ». Jake marqua une pause. Le temps de tourner la page où l'article se poursuivait, agrémenté de nouvelles photos, une camionnette carbonisée retournée sur les marches du musée d'histoire naturelle du Kansas. L'embouteillage monstre, pare-choc contre pare-choc, du Golden Gate Bridge de San Francisco. Un entassement de cadavres à Times Square. L'un des corps, remarqua Susanna, était pendu à un lampadaire, et cela lui rappela la course cauchemardesque pour atteindre le berceau de Lude qu'elle et Eddie avaient accompli après s'être séparés du pistolero. Elle se souvint de Luster, Winston, Jeeves et Maud. Quand le tambour des dieux a retenti cette fois, c'est le caillou de Spanker qui est sorti du chapeau, avait dit Maud, et on l'a fait danser. Sauf bien sûr que ce qu'elle avait voulu dire par là, c'est qu'ils l'avaient pendu. Comme ils avaient pendu des gens, semblait-il, là-bas, dans ce bon vieux New York. Quand les choses tournaient au bizarre, il y avait toujours quelqu'un pour dénicher une corde prête au lynchage, semblait-il. Des échos. Tout était un écho de tout. Il bondissait, rebondissait d'un monde à l'autre, sans s'atténuer comme les échos ordinaires, mais au contraire en croissant et devenant plus terrible. « Comme le tambour des dieux », songea Susanna en frissonnant. Dans les débats au plan national, lut Jake, la conviction continue à grandir que les principaux leaders du pays, après avoir nié l'existence de la supergrippe dans les premiers jours où l'adoption de mesures de quarantaine aurait encore pu avoir un certain effet, se sont réfugiés dans des abris souterrains conçus pour sauvegarder les têtes pensantes en cas de conflit nucléaire. Plus personne n'a vu le vice-président Bush, ni les membres clés du cabinet de l'administration Reagan depuis les dernières 48 heures. Le président Reagan lui-même est invisible depuis qu'il a assisté dimanche matin au service de l'église méthodiste de la Green Valley à San Simeon. Ils se sont précipités dans les bunkers comme Hitler et sa bande de rats d'égout nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le représentant Steve Sloan. Quand on lui a demandé s'il voyait une objection à ce que l'on cite son nom, le représentant du Kansas nouvellement élu, un républicain, a éclaté de rire et répondu « Pourquoi voulez-vous? Je suis déjà bien atteint, je ne serai plus que poussière à la même heure la semaine prochaine. » Des incendies probablement criminels, continuent de ravager Cleveland, Indianapolis et Terre Haute. L'explosion gigantesque qui s'est produite près du Riverfront Stadium de Cincinnati ne semble pas être d'origine nucléaire, comme on l'a d'abord craint, mais résultée d'une accumulation de gaz naturel causée par le manque de surveillance. Le journal tomba des mains de Jake. Une rafale de vent l'emporta d'un souffle le long du quai, dispersant les quelques pages non dépliées. Ôté et tirant son cou, en happa une au passage. Elle trottina vers Jake, la tenant dans sa gueule, aussi docile qu'un chien avec un bâton.
« Non, Ôté, je n'en veux pas !» dit Jake d'une voix très jeune et maladive.
« Au moins nous savons ce que sont devenus les habitants !» conclut Susanna, qui se pencha et retira le journal de la gueule dotée. C'étaient les deux dernières pages. Elles étaient bourrées d'avis mortuaires imprimés en très petits caractères. Pas de photos, pas de cause du décès, pas d'annonce de service funèbre. Rien qu'un tel est mort, aimé de X et Y, une telle est morte, bien aimée de Jill et Joe, cet autre-là est mort, aimé de ceci, cela. Tout ça dans une typographie minuscule, pas très nette ni lisible. Ce furent les bavures de la typo qui achevèrent de convaincre Susanna que tout cela était vrai.
Ils ont tout fait pour honorer leur mort, même jusqu'à la fin.
se dit-elle, une boule dans la gorge. Ils ont vraiment tout fait.
Elle replia la feuille en quatre et regarda au dos la dernière page du Capital Journal. On y voyait une image de Jésus-Christ, l'œil triste, les mains tendues, le front portant les stigmates de sa couronne d'épines. En dessous, ces trois mots, énormes en gras. « Priez pour nous ». Elle releva des yeux accusateurs sur Eddie. Puis elle lui tendit le journal, tapotant du doigt la date en haut de page. 24 juin 1986. Eddie avait été tiré dans le monde du pistolero un an après. Il tint la feuille un long moment, lissant sans cesse la date entre ses doigts, comme s'il pouvait par ce manège la faire changer. Puis il regarda ses compagnons en secouant la tête. « Non. Je ne m'explique pas plus ce journal que cette ville ou les morts dans cette gare. Je peux vous assurer d'une chose. Tout allait bien à New York quand j'en suis parti. N'est-ce pas, Roland ?» Le pistolero tiqua un tout petit peu. « Rien ne m'a paru aller bien dans ta ville, mais ses habitants ne m'ont pas donné l'impression d'être les survivants d'un fléau tel que celui décrit ici. Ça, non. » « Il y avait bien un truc qu'on appelait la maladie du légionnaire, » dit Eddie. « Et le sida, bien sûr. »« Le virus sexuel, hein, c'est ça ?» demanda Susanna. « Transmis par les tantouses et les drogués ?»« Oui, sauf qu'on n'appelait plus les gays des tantouses de mon camp, » dit Eddie. Il esquissa un sourire, puis le remballa vite fait en le sentant artificiel et contraint. « Alors tout ça ?» « Ça n'est jamais arrivé, » dit Jake, effleurant avec hésitation le visage du Christ sur la dernière page du journal. « Bien sûr que si, » dit Roland. « C'est arrivé au sommeil de juin de l'année 1986, et nous nous trouvons ici à la suite de ce fléau. Si Eddie a raison quand on laps de temps écoulé, cette épidémie de supergrippe a eu lieu au dernier sommeil de juin. » Nous nous trouvons à Topeka, Arkansas, à la moisson de 86. Voilà pour le camp. Quant au « où », tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas celui d'Eddie. Ça pourrait être le tien, Susanna, ou le tien, Jake, puisque tu as quitté ton monde avant que tout ceci n'arrive. Il tapota la date du journal, puis regarda Jake. Tu m'as dit quelque chose une fois. Je doute que tu t'en souviennes, mais moi, je n'ai pas oublié. C'est l'une des choses les plus importantes qu'on m'ait jamais dites. Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceux-ci. D'autres devinettes en perspective ? Fit Eddie, l'air renfrogné. N'est-il pas établi que Jake Chambers est mort une fois et pourtant se tient devant nous en ce moment, tout ce qu'il y a de plus vivant ? Ou bien mettez-vous en doute mon récit de sa mort sous les montagnes ? Que vous ayez douté de ma bonne foi de temps en temps, c'est une chose que je sais, et je suppose que vous avez de bonnes raisons pour ça. » Eddie rumina l'information, puis fit non de la tête. « Tu mens quand ça sert ton but, mais je crois que lorsque tu nous as raconté l'histoire de Jake, t'étais trop détruit dans ta tête pour nous sortir autre chose que la vérité. » Roland constata avec un peu d'effroi que les paroles d'Eddie l'avaient atteint. « Tu mens quand ça sert ton but. » Mais ne s'y arrêta pas. Après tout, c'était vrai pour l'essentiel. « On est revenu à la flaque du temps, » dit le pistolero. « Et on l'en a tiré avant qu'il ne s'y noie. »« Tu l'en as tiré, » rectifia Eddie. « Tu m'as bien aidé pourtant, » dit Roland, « ne serait-ce qu'en me maintenant en vie. Mais oublions ça pour le moment. C'est fort peu à propos. » Ce qu'il est plus, c'est qu'il existe plusieurs mondes possibles et une infinité de portes qui y mènent. Nous sommes dans l'un de ces mondes. La tramée qu'on entend est l'une de ces portes, seulement plus grande que celle qu'on a trouvée sur la plage. « Grande comment ?» demanda Eddie. « Grande comme la porte d'un entrepôt ou bien comme l'entrepôt lui-même ?» Roland secoua la tête, levant les paumes de ses mains vers le ciel. Qui sait ? Cette tramée, dit Susanna, on n'est pas seulement à côté d'elle, n'est-ce pas ? On est passé au travers.
C'est comme ça qu'on a atterri ici, à cette version de Topeka.
C'est possible, admit Roland. L'un d'entre vous a-t-il ressenti quelque chose d'étrange, une sensation de vertige ou une nausée passagère?
Ils firent tous non de la tête.
Otte, qui avait observé Jake attentivement, fit lui aussi non de la tête cette fois.
Non, dit Roland, comme il s'y était attendu.
Mais on était polarisé sur les devinettes.
Polarisé sur la façon d'éviter de nous faire tuer, oui,
grommela Eddie.
Oui.
Aussi, peut-être sommes-nous passés au travers sans nous en rendre compte.
Dans tous les cas, les tramés ne sont pas naturels, ce sont des écorchures sur la peau de l'existence et qui ne doivent la leur qu'au fait que les choses vont de travers,
et ce, dans tous les mondes.
Parce que les choses vont de travers à la tour sombre, fit Eddie.
Roland approuva.
Et même si cet endroit, ce camp, ce où, n'est pas le cas de ton monde à présent, il pourrait le devenir. Ce fléau, ou d'autres encore pires, pourraient s'étendre. Tout comme les tramés continueront à s'étendre, en nombre et en taille croissant. J'en ai vu peut-être une demi-douzaine au cours de mes années de quête de la tour, et oui, une vingtaine d'autres, peut-être. La première que j'ai vue, j'étais encore très jeune. C'était près d'une ville du nom Dambry. Il se frotta la main contre la joue à nouveau et ne fut pas surpris de constater que de la sueur mouillait ses poils de barbe.
Aime-moi, Roland. Si tu m'aimes, alors aime-moi jusqu'au bout.
Quoi qu'il nous soit arrivé, ça nous a éjectés de ton monde, Roland, dit Jake. Nous sommes tombés du rayon.
Regarde.
Il montra le ciel du doigt. Les nuages se mouvaient lentement au-dessus de leur tête, mais plus dans la direction vers laquelle le mufle écrasé de Blaine pointait. Le sud-est était encore le sud-est, mais les signes du rayon qu'ils avaient tellement pris l'habitude de suivre avaient disparu.
« Quelle importance ?» demanda Eddie. « Je veux dire, le rayon a beau avoir disparu, la tour n'en existe pas moins dans tous les mondes. Hein ?»«
Oui ?» dit Roland. Sauf qu'elle n'est peut-être pas accessible depuis tous les mondes. Un an avant qu'il ne débute sa merveilleuse carrière d'héroïnomane si bien remplie, Eddie avait fait une brève tentative peu couronnée de succès comme coursier à bicyclette. Il se rappelait maintenant certains ascenseurs d'immeubles du bureau dans lesquels il avait porté des plis, immeubles qui abritaient surtout des banques ou des firmes d'investissement. À certains étages, on ne pouvait arrêter la cabine ni descendre sans être possesseur d'une carte spéciale dont on balayait la fente sous le tableau des numéros d'étage. Quand l'ascenseur arrivait à ses étages verrouillés, le numéro d'étage était remplacé par un X.
« Je crois qu'il nous faudra retrouver le rayon, » dit Roland.
« Tu prêches un convaincu, » dit Eddie.
« Allez, avançons. »
Au bout de quelques pas, il se retourna vers Roland, le sourcil en point d'interrogation.
« Vers où ?»«
Là où nous allions, » dit Roland, comme si ça avait dû tomber sous le sens. Il dépassa Eddie et dirigea ses bottes poussiéreuses et éculées vers le parc d'en face.